Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio, première émission pour l'année 2018 et encore une fois, pour m'accompagner cette année et dans cette émission, mon collègue et mon ami Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc!
Salut, bonne année mon cher!
Bonne année à toi aussi, ça a bien été ton temps des fêtes?
Oui, tranquille, beaucoup en famille, beaucoup à la maison, un petit peu sur le dos comme tout le monde,
ouais.
Mais bon, c'est quand même pas si mal, là. Ça a plutôt bien été. Toi?
Ouais, ça a été semblable, beaucoup de temps en famille, un peu de temps sur la route. C'est drôle parce que on est allé réveillonner chez ma soeur à Mirabel, puis en s'en revenant, tu sais, un moment donné, il annonçait de la neige, j'annonçais une tempête, puis dans la nuit, c'était pas vraiment précis. Puis quand j'ai dit, à un moment donné, on regardait l'heure, il était 2 heures. J'ai dit, ouais, je pense que ça serait le temps qu'on y aille. On est parti, puis moi, je reste à Saint-Zotique. Puis en traversant le pont de l'île aux Tourtes, ça a commencé à poudrer. Puis après ça, plus je m'en venais vers chez nous, plus c'était une neige intense. C'était le temps qu'on arrive, mettons. c'était assez incroyable, là. Notre timing était pas pire, là. Mais il aurait pas voulu partir une heure plus tard parce que ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment désagréable, là. Mais ça a bien été. Fait que, puis on a eu bien, bien du plaisir. Le party en pyjama pour le réveillon de Noël chez ma soeur, c'était agréable.
Ah, c'est cute, c'est cute.
Ouais, c'était drôle. Puis tu sais, t'as pas besoin de te casser la tête. Bon, qu'est-ce que je vais porter à soir? Quelle cravate? Veston, pas veston? C'était non, pyjama. Fait que j'étais habillé en tigre avec mon gars. C'était acheté un pyjama avec le tigre avec la queue puis l'espèce de petit chapeau avec les oreilles puis tout. C'était vraiment cute, là. Fait que c'était drôle.
J'imagine, oui, ça devait être de toute beauté.
Ouais, fais juste imaginer parce que tu me verras jamais là-dedans. Je l'ai comme serré puis il est pas prêt à ressortir.
Je sais pas pourquoi.
Pas qu'un autre party pyjama. Donc, Marc, on va commencer. On a eu des questions du public. Je veux m'excuser là à ceux qui nous ont écrit, à qui on va répondre ce soir. C'est des gens qui ont écrit sur l'ancienne adresse courriel, l'adresse que j'avais dans le temps que l'émission s'appelait le podcast Toto. Et puis, les gens écrivent encore là. Puis, franchement, c'est une adresse où je vois presque jamais parce que, bon, j'y allais de temps en temps. Puis, il y avait jamais rien à part, bon, des cochonneries de publicité puis des choses comme ça que je supprimais. Puis là, ben, je suis allé faire un tour l'autre jour, puis j'ai vu qu'on avait 3 questions du public. Donc, je me suis dit avec Marc, ben, on va prendre le temps d'y répondre, même si on est un peu en retard. J'ai même réécrit à tout le monde, puis tout le monde m'a réécrit pour me dire, ah oui, j'écoute encore l'émission. Fait que j'ai dit, bon,
ouais,
on va,
je suis obligé de dire, attention,
ouais.
Il y en a un là-dedans qui a répondu qu'il m'aimait bien, mais que c'était toi le cœur de l'émission.
Ben oui, je trouve ça bizarre. Mais bon, pourtant, on sait bien que c'est toi, là. C'est le génie.
J'hésite encore à répondre à sa question.
Ouais,
c'est pas vrai. J'y ai répondu pour lui dire qu'il avait parfaitement raison. Puis que sans toi, je ferais pas le show, mais...
Tu m'as pas copié là-dessus, hein?
C'est un peu de modestie, quand même. Là.
OK, c'est correct. Donc, fait qu'on va y aller avec les questions, puis après ça, tu veux nous parler un petit peu du CES.
Effectivement.
Je vais commencer par une question qui vient de Pierre. Et Pierre, lui, nous dit que il veut aller dans l'Ouest canadien avec sa conjointe, puis il veut tirer une roulotte qui pèse 4500 livres. Bon, ça, c'était à l'automne, mais je me suis dit, tu sais, vaut mieux tard que jamais. Ce que Pierre nous demandait, c'est j'aimerais connaître le véhicule qui saura nous permettre de remorquer en tout paix d'esprit, c'est-à-dire, tu sais, sans problème et sans que le véhicule soit tout le temps à bout de souffle. Nous sommes, mon épouse et moi, à la retraite et on doit faire, tu sais, il est pas connaissant en mécanique, fait qu'il veut pas non plus se ramasser avec quelque chose qui va devoir probablement toujours être au garage ou devoir diagnostiquer lui-même. Il nous parle du Grand Cherokee V6 ou autre véhicule. Qu'est-ce que tu aurais à lui conseiller? Moi, j'ai pensé au Kia Sorento, mais il y a peut-être autre chose, là.
Ben, effectivement, le Kia Sorento est un bon choix. Le Grand Cherokee, c'était mon premier choix parce que c'est un véhicule que j'aime beaucoup et qui propose aussi beaucoup de confort et une belle qualité de finition, en plus d'un rouage intégral qui est vraiment performant. À mon avis, c'était probablement le meilleur choix parce qu'on parle quand même de près de 5000 livres de remorquage. Mm-hmm. Ça prend un véhicule qui est capable là, d'être un peu oomph et il s'en va dans les rocheuses. Fait qu'il faut qu'il se garde quand même un peu de jeu parce que... dans les rocheuses, il y a une ou deux côtes.
Une, genre.
Ouais, c'est ça. Tu commences, puis au rendu à mardi, tu tournes. Là,
c'est ça.
En dehors de la côte. Donc, à mon avis, c'est vraiment un des très, très bons choix parce que, justement, ça va lui donner une certaine latitude. Avec le Sorento, il va faire le travail aussi. Cependant, il risque d'être un peu serré sur la capacité de remorquage parce que c'est beau une roulotte de 4500 livres, là, mais je te rappelle qu'à 4500 livres, elle est vide.
Oui.
Après ça, puis même le Grand Cherokee, tu sais, c'est Il est capable, là, sans difficulté. Là, il remorque 6100 livres. Mais rappelle-toi que 4500, comme je te dis, quand tu as mis toute ta bouffe, tout ce qui va à l'intérieur de la roulotte, ben tu rajoutes quelques centaines de livres.
Donc, lui nous parle de 4500 livres tout compris. Fait que peut-être que sa roulotte pèse, je sais pas, 4000 ou 3500, okay. Puis il calcule l'extra, le linge, la bouffe et tout ça. Là.
Bon, ben dans ce cas-là, oui, le Sorento est un bon choix. J'ai quand même un faible pour le Grand Cherokee. Mais moi, je suis un petit peu vendu Jeep. Hein. Fait ouais. que je suis pas vraiment de référence, mais pour moi, ce serait un excellent choix.
Fiabilité, ouais.
Fiabilité du nouveau Grand Cherokee, il n'y a pas de problème. On a réglé pas mal les problèmes de ça. Chez Jeep, dis-toi que chez FCA, s'il y a une compagnie en laquelle moi j'ai confiance, c'est Jeep. C'est celle qui actuellement va le mieux ou à peu près. C'est celle qui est vraiment là, est capable de produire des véhicules qui sont intéressants, qui sont agréables, puis qui sont pas moins fiables, en fait, que n'importe quel autre véhicule. Alors, moi, Jeep, j'ai pas de problème avec ça.
OK, c'est bon. Donc, parfait. Donc, c'est ça, Jeep Grand Cherokee. Donc, il y avait déjà un bon choix. Sinon, ben moi, j'aime beaucoup le Sorento, qui pourrait être quelque chose d'autre. Vraiment, là, c'est on s'embarque dans un paiement qui est assez long avec un véhicule comme ça. Fait que choisissez ce qui vous tape à l'œil et ce que vous aimez le plus. Là. Mais c'est deux bons choix. Là.
Moi, tu vois, le Sorento, je le vois plus comme un véhicule familial que comme un véhicule pour vraiment faire du remorquage de cette nature-là.
OK, ouais.
Alors, c'est plus dans cet esprit-là que j'hésite à le recommander. Non pas qu'il sera pas capable, mais je te dirais que, je sais pas, l'esprit aventurier, tu sais, monsieur Pierre qui veut aller dans les Rocheuses avec son épouse, qui veut aller faire un peu d'affaires différentes, en tout cas, moi, je les vois plus au volant d'un Grand Cherokee. Là, okay. Évidemment, c'est une question de pure perception.
Non, puis un coup, la roulotte détachée, un Grand Cherokee, c'est le fun aussi.
C'est le fun, puis c'est vraiment confortable, et c'est vraiment... Et je trouve tellement que la nouvelle génération est bien réussie. Ici, là.
Mm-hmm. Non, c'est des beaux véhicules.
Vraiment,
parfait.
Vraiment.
Donc, Pierre, j'espère que on n'est pas si trop tard que ça. Si vous avez remis votre voyage, on est correct. Sinon, ben, j'espère que vous avez été avec votre premier amour et que vous êtes allé avec le Grand Cherokee. C'est ce que Marc vous suggère, de toute façon.
Effectivement.
Super. Donc, deuxième courriel, celui-là vient de Marcel. Et Marcel dit que, bon, il aime toujours la balado et tout ça. Puis, il aime qu'on inclut des chroniques sur les voitures électriques, sauf que pour lui c'est un rêve mais c'est pas pour demain. Il a décidé d'étirer son Explorer 2013 de encore 5 ans juste pour attendre de voir ce qui va se passer dans les voitures électriques. Et oui, d'ici ce temps-là, mon cher Marcel, il va avoir des nouvelles voitures avec plus d'autonomie. Là, c'est écrit dans le ciel. L'autonomie va se décupler quand même assez rapidement dans le domaine de la voiture électrique. Là, d'ici 5 ans, ça devrait être encore mieux qu'aujourd'hui. Parce qu'il dit, bon, moi, 350 km d'autonomie, c'est limite. Faut que je planifie mes déplacements trop avec ça parce qu'il va quand même assez loin. Faudrait qu'il fasse un détour de 45 minutes des fois quand il va camper au Dinosaur Park Campground pour être capable d'aller charger. Donc, pour lui, l'autonomie n'est pas assez grande. Mais lui, ce qu'il veut vraiment savoir, Marc, de toi, c'est pas qu'on parle de voiture électrique, c'est que lui aimerait qu'on parle de pneus toute saison. Donc, ce qu'on appelait dans le temps des pneus des pneus 4 saisons, ce qui n'est plus vraiment à la mode aujourd'hui. On y voit pneus d'été, pneus d'hiver, mais tu sais, il dit il y a des compagnies qui en font encore.
Effectivement. Et c'est revenu cette année.
Okay.
C'est une tendance qui revient cette année, et ce sont effectivement des pneus toute saison. C'est-à-dire que ce sont des pneus 4 saisons qui sont suffisants pour être homologués hivernal.
Okay.
Donc, des pneus que tu peux garder en hiver et qui arborent effectivement le petit icône, là,
la flocon.
Ouais, la flocon puis la montagne. Bon. Mm-hmm. Ceci étant dit, c'est parfait. Moi, j'appelle ça les pneus snowbirds.
Ben, okay? C'est ça qui nous parle aussi, justement. Là.
Parce que ce sont des pneus que tu vas avoir pour une très, très courte période. Mm-hmm. On rappelle que tu as droit à 10 jours maximum sans pneus d'hiver au Québec. Si c'est plus que ça, ben là, évidemment, tu t'exposes à pas mal de problèmes. Et les snowbirds, souvent, vont rester ici un petit peu plus longtemps, vont partir dans le temps des fêtes pour aller en Floride ou ailleurs. Donc, pour eux, c'est un compromis intéressant. Cependant, dites-vous que ce sont des pneus qui n'offrent pas les performances de pneus d'hiver, loin de là.
Non, c'est
ça. Sont en fait des pneus 4 saisons de pas pire qualité. Quelqu'un me disait, c'est le plus beau coup marketing qu'on n'a pas fait depuis des années au niveau des pneus. Bon, il y a un conseiller en pneus qui me dit, ben en fait, ce sont des compagnies qui se sont achetées des icônes, c'est-à-dire qui ont réussi à faire passer les tests à leurs pneus et qui ont réussi à les rendre accessibles 4 saisons, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment des pneus de très, très gros compromis qu'on ne prend pas de façon régulière et de façon je dirais, assez longue. C'est pas un bon choix. Vous risquez de le regretter et ne prenez surtout pas ça. Pensez pas utiliser ça à l'année et être en mesure d'avoir des bonnes performances. C'est pas vrai.
Non, c'est ça, mais ce que Marcel nous parle aussi, tu sais, un retraité, quelqu'un qui sort pas nécessairement beaucoup. Tu sais, comme, je prends l'exemple de mes beaux-parents qui vont faire des commissions à 15 minutes de la maison, tu sais, puis qui roulent pas nécessairement beaucoup, ou le travailleur à domicile qui sort juste de temps en temps, ou justement le retraité qui va partir dans le sud, puis il a pas nécessairement le goût de partir d'ici avec ses pneus d'hiver, arrêter en Virginie pour faire mettre ses pneus d'été, puis continuer par après, parce qu'on s'entend, non, tu pars d'ici que tes pneus d'hiver, t'arrives en Floride, tes pneus sont finis, là.
Mais justement, mais là, t'as raison, c'est que pour les snowbirds, c'est parfait. Pour les autres, je suis obligé de pas être d'accord avec toi, parce que même si t'as des pneus 4 saisons, OK, au lieu de te durer 4 ans, ils vont t'en durer 2.
Ouais, c'est sûr.
Fait que tu fais pas d'économie, puis tu, de toute façon, si t'es un automobiliste intelligent, tu vas aller faire entretenir ta voiture à l'automne et au printemps, pareil. Donc, tu vas quand même avoir des dépenses à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment une économie de bout de chandelle. C'est vraiment dans des conditions particulières. Et je pense pas que ta sécurité vale cette économie de 30$ par année que tu peux faire avec des pneus comme ceux-là. Parce que, je te le répète, c'est pas des pneus qui vont résister plus longtemps, là. C'est des pneus qui vont faire deux années complètes, alors que tes pneus d'hiver vont faire 4 saisons. C'est-à-dire donc l'équivalent, tu sais. Alors, à mon avis, c'est pas un bon choix. Ben, c'est pas un bon choix. C'est pas des pneus qui sont dangereux, là. C'est pas ce que je veux dire. Mais c'est certain que ce sont des pneus qui offrent de moins bonnes performances que les vrais pneus d'hiver que l'on sort, là. D'ailleurs, on va s'en reparler dans deux semaines, là, mais Nokian vient de sortir des nouveaux pneus d'hiver qui vont être disponibles l'an prochain. Et honnêtement, ça aussi, ça promet, là. Alors oui, pour des snowbirds, c'est parfait. Pour les autres, investissez pour aller les faire installer, vos pneus, là, ça vaut peut-être la peine.
Puis, de toute façon, si vous faites moins de kilométrage, ils vont vous durer encore plus longtemps, ce qui est encore mieux.
Que, exactement.
Parce que côté prix, j'imagine qu'un pneu 4 saisons doit être plus cher à l'achat qu'un pneu d'été régulier ou qu'un pneu d'hiver régulier. On doit faire, tu sais, le prix du pneu doit être un peu plus cher.
Ça, je t'avoue que je peux pas répondre à cette question-là. J'ai pas vérifié, là. Okay. Je me lancerai pas là-dedans.
C'est bon. C'est correct. On regardera ça pour plus tard. Mais c'est ça. Donc, non, on est mieux d'y aller avec des pneus d'hiver et des pneus d'été, c'est ce qui est mieux. Puis de toute façon, c'est vrai, les pneus vont durer plus longtemps parce que t'es eu juste comme deux, tu sais, trois saisons puis une saison d'hiver, c'est ça. Parfait.
Exactement.
Donc, dernier courriel qu'on a reçu, et ça m'a fait un petit velours parce que ça vient de la France. Et c'est Cédric qui nous écrit, il dit qu'il nous écoute depuis 2 ans grâce au podcast en France. Puis des fois il vient au Québec aussi quand j'ai la chance d'y séjourner. Et puis il apprécie l'émission et tout ça parce qu'on est passionné. Il est passionné d'automobile. Puis ça, il permet de suivre ce qui se passe un peu au Québec puis au Canada, en Amérique, le côté voiture. C'est drôle parce que moi je fais la même chose. J'écoute un podcast français pour me garder à jour de ce qui se passe en France et en Europe. Donc à peu près la même chose, mais sur des continents différents. Et puis, il dit qu'il est un père de famille qui roule en Toyota Prius, puis sa question est la suivante. Comment se fait-il qu'un nombre significatif de modèles soit équipé flex fuel, comme le Grand Caravan, beaucoup de produits Chrysler sont flex fuel, et certains produits GM et Ford aussi, puis qu'il n'est pas possible de trouver du carburant à base d'éthanol. Et ce carburant a l'avantage de moins polluer et d'être moins cher, du moins en France. Mais en France, c'est vrai, puis vu que j'écoute le podcast, je le sais, l'éthanol est très, très disponible là-bas. Tandis qu'ici, trouver une pompe d'éthanol, l'essence a de l'éthanol dedans, là, un certain pourcentage, mais de trouver une pompe d'éthanol, c'est comme presque chercher l'arche perdue pour Indiana Jones, là.
Non, effectivement, il n'y a pas d'essence éthanol chez nous.
C'est ça.
Chez nous, la règle veut que tu aies un maximum de contenu d'éthanol de 15%, si je me souviens bien.
Ouais, quelque chose comme ça.
C'est ça. Alors, t'as pas plus et tu trouveras pas plus non plus. Et on ne fait pas de production d'éthanol chez nous. Donc, effectivement, c'est pas quelque chose qui est considéré. Pourquoi? Écoute, il y a différentes raisons historiques et politiques et tout ce que tu voudras. On avait pensé établir une usine d'éthanol sur la rive sud de Montréal, rappelle-toi, avec la drèche de maïs, là, avec les résidus de maïs. Mm-hmm. Mais finalement, on a décidé de ne pas le faire. Donc, pour le moment, on importe quand même une partie d'éthanol. On en produit un peu, mais pas beaucoup, effectivement. Mais les flex fuel absorbent mieux même les essences mélangées que normalement on le fait. Et il y a de plus en plus de manufacturiers d'essence, si je peux me permettre ainsi, qui des raffineurs là, qui mettent de l'éthanol à l'intérieur de leur essence.
C'est ça, mais ici, c'est vraiment pas disponible. On s'en va pas du tout vers ça, là. Nous autres. C'est vraiment pas totalement différent de l'Europe là, et de la France, le monde de l'automobile au Québec, les essences et tout ça. Là. Très peu de diesel, pas du tout d'éthanol à part mélangé avec l'essence régulière. C'est deux mondes totalement différents.
Effectivement, mon cher.
Super, Marc. On va faire une pause, puis on va revenir avec nos essais de la semaine. On reparlera du CES un petit peu plus tard, parce qu'on a parlé... Les questions du public ont pris du temps, et j'aime ça. Donc, si vous avez des questions, ben continuez à nous écrire info@saroulradio.com, puis on va se faire un plaisir de vous répondre pendant l'émission. C'est vraiment agréable. Donc, Marc, on va faire une petite pause, puis on vient tout de suite avec nos essais de la semaine. Alors, nous sommes de retour, et Marc, on a un invité, j'allais dire un invité de Marc, mais ça serait un mauvais jeu de mots. On a le porte-parole du Salon de l'Auto de Montréal pour la Xème année. J'ai perdu le compte encore une fois. Et on rejoint M. Bertrand Godin. Salut, Bertrand.
Hey, salut les gars.
Ça va bien?
Ça va bien, certain.
Ça fait combien d'années, Bertrand, que tu es là?
C'est le 17e salon, déjà. Sur 75 ans. Écoute, c'est tellement incroyable de pouvoir... vive encore cette expérience-là de porte-parole, 17 salons. L'automobile a changé passablement en 17 salons de l'auto, et c'est pour ça qu'à chaque fois, c'est un renouveau. Puis je vous dirais que depuis que je voyage moins pour des essais automobiles, le Salon de l'Auto a encore plus de signification pour moi parce que je suis fébrile, parce que là, je vais les voir pour de vrai, alors qu'on a tendance de les voir énormément sur Internet. Ben là, je sais que, Marc, toi, tu as la chance d'en voir souvent un peu partout, mais pour moi, là, c'est spécial.
Cette année, tu l'as souligné d'entrée de jeu, c'est le 75e anniversaire du Salon. C'est un anniversaire important. Je pense que vous allez le souligner de façon particulière, là.
Oui, naturellement, on va avoir un thème sur les 75 ans du salon. 75 ans de passion, d'évolution technologique, de culture aussi. Et ça, je pense que c'est important parce que l'automobile, un peu comme les chevaux à l'époque, on bâtit notre société. Et donc, c'est pourquoi là que c'est quand même une date très, très importante parce que ça a été quand même le début d'un rassemblement où on a partagé l'amour de l'automobile. Et ça, c'est quand même important.
À quoi on peut s'attendre cette année? C'est quoi les nouveautés là, qui nous attendent au Salon de Montréal cette année?
Écoutez, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Encore cette année, on a 38 premières canadiennes. On a une présentation spéciale. On a une première nord-américaine. On a des concepts. On va avoir le thème de la zone performance qui est toujours présente avec les essais. La formule fonctionne à merveille. Et c'est pour ça là, que quand on regarde tous les dévoilements, eh bien, ça promet d'être fort intéressant.
Pour les passionnés de voitures électriques, Bertrand, on a encore les essais de voitures électriques cette année?
Oui, et puis quand on regarde la voiture électrique, de plus en plus, hein, on le sait, ça a pris de l'ampleur, une affaire incroyable. Écoutez, on a 41 modèles qu'on parle électrique hybride, et donc les gens vont pouvoir faire l'essai de plusieurs modèles, que ce soit la Volt, que ce soit la Bolt, que ce soit la Clarity de chez Honda, la PHEV. Il va en avoir énormément cette année, comme plus que jamais.
Ouais, parce que ça devient la mode. Puis oui, l'offre a grandi cette année justement avec Honda et sa Clarity. Donc ça va être intéressant. Qu'est-ce que tu as le plus hâte de voir cette année, toi?
Ben moi, c'est certain que moi j'ai hâte de voir la Ford GT. Parce que quand on avait sorti, je pense en 2004, qu'on avait fait une refonte de la GT, c'était plus un style. C'était une voiture performante, oui, mais c'était une figure de style. Là, la Ford GT, on sait, on l'a mis en compétition l'année dernière, et là, elle renaît là, vraiment. Et lorsqu'on regarde l'histoire de la Ford GT, le challenge que s'est fait Ford avec Ferrari, alors que Ford voulait acheter Ferrari et Ferrari n'a pas voulu. Donc, on va aller les battre sur le terrain du Mans. Donc, pour moi, ça signifie quand même une voiture de légende. À la sauce moderne, bien entendu. Mais quand on regarde, bon, que ce soit bon la McLaren 720S Velocity, là, vous allez dire, ben oui, c'est ça, ils s'en vont des véhicules sportifs. Pour moi, c'est des voitures de rêve, bien entendu, mais il y a tellement de modèles qui va répondre à des besoins des gens. Et ça, pour moi, ça aussi, c'est une attraction. Je vais prendre le temps, là, vraiment, de les voir une par une et de partager avec les gens là, leur observation.
C'est bon.
Oui, parce que toi, tu es là pas mal tout le temps. Là. Tu fais quand même plusieurs apparitions au salon tout au long des 10 jours que ça dure. Là.
Ah, c'est certain. Moi, ça, c'est comme le temps des fêtes. Faut que tu y ailles un peu partout tous les jours. Et là, ben, dans le palais des congrès, écoutez, il va y avoir, c'est pas loin de 600 voitures qu'il va y avoir cette année, sans compter, là, bon, les zones, la zone performance, notamment, où on va avoir une vingtaine de voitures plus spectaculaires les unes que les autres. Et c'est tellement plaisant de parler avec les gens. Les gens sont connaisseurs en matière de voitures. Des fois, les gens viennent juste s'informer. Pas parce que nécessairement on veut changer de voiture. C'est sûr qu'il y en a un bon nombre de gens qui viennent au salon pour ça. Mais principalement, c'est un événement, le salon, qui démarre avec le jeudi, avec, en plus de ça, la soirée bénéfice qui a ramassé des millions et des millions depuis le tout début de cette activité-là. Puis de voir les sourires, de voir les commentaires, c'est une fête.
Oui, c'est un peu pour les amateurs de voitures, c'est un peu comme rentrer dans un magasin de bonbons. C'est, t'as accès à tout. Puis c'est ce que je dis aux gens, c'est que si vous magasinez une voiture, c'est pas mal la meilleure place à aller parce que vous vous ferez pas achaler par un vendeur que tu sais, il veut absolument vous vendre le modèle populaire présentement, puis vous pouvez pas vous asseoir dedans nécessairement sans vous faire achaler. Là, c'est vraiment la place pour comparer aussi, tout voir les modèles, comparer, puis des fois, il y a des rabais à avoir, il y a des rabais du salon, des choses comme ça. C'est un bon temps pour magasiner sa voiture.
Ah ben tout à fait, ça sans compter les concours, du 19 janvier au 28, là, il va y avoir de l'action au Palais des Congrès, ça c'est certain, puis rappelez les heures, ça ouvre à 10h le matin jusqu'à 21h30. Moi, je vous conseille d'acheter les billets en ligne sur le site Internet. Ça en vaut la peine là, pour éviter les files d'attente, mais rappelez aussi que les guichets vont fermer 90 minutes là, avant la fermeture du salon, là, soit à 21h30.
Non, il faut pas arriver 90 minutes avant la fermeture, parce que, moins que tu ailles voir un modèle ou deux modèles précis, tu n'as pas le temps de voir grand-chose en 90 minutes. C'est une bonne marche, une bonne journée de cardio.
Ah, je pense, là, franchement, ça prend... Oh. Lorsqu'on y met beaucoup d'attention sur chaque modèle, là, on peut passer facilement la journée entière.
C'est bon. Marc, as-tu d'autres choses sur le salon ou on passe-tu à l'autre sujet?
Je suis obligé de faire l'avocat du diable parce que tu l'as dit, Bertrand, je vais souvent dans les salons un peu partout. Et ce qu'on constate, c'est que les salons ont tendance à perdre un peu de leur superbe. Là. Ils sont moins populaires. Les manufacturiers investissent moins. Est-ce que le Salon de Montréal a encore sa place?
Bien, c'est certain, lorsqu'à chaque année, on tombe toujours autour de 200 000 visiteurs, quand on regarde la démographie, c'est quand même... Moi, je n'ai pas senti de baisse, personnellement. Peut-être dans les autres salons, mais Montréal demeure un salon très stable dans sa clientèle, dans sa fidélité. Et ça, ben, c'est extrêmement positif.
C'est bien. On est très contents. Écoute, Bertrand, on ne peut pas t'avoir avec nous sans parler de quelque chose que tu as fait récemment, c'est de publier un livre.
Oui.
Un livre qui est en fait une biographie de ta biographie, mais elle n'est pas complète. Alors, on va préciser tout de suite aux gens, Bertrand est un ami à moi. Ça fait des années qu'on se connaît, mais on s'est connus l'année où sa biographie arrête. Fait qu'il a décidé d'écrire un livre. Il a décidé d'écrire un livre pour pas parler de moi.
Il y a un signe là-dedans.
Non, non, disons, ce qu'on a voulu faire, je dirais pas que c'est une autobiographie, oui, c'en est une, mais c'est plus une autobiographie de du rêve que j'ai eu. C'est-à-dire que ça a commencé tout ça, bon, c'est sûr, ça a commencé avant, j'avais la fibre de l'automobile parce que mon père était un passionné. Mon père s'est acheté un stock car, je me souviens encore, à l'âge de 5 ans, j'étais agrippé après la cage de la voiture de course, puis dans le village, imaginez, aujourd'hui, il irait en prison directement. En plus, moi, je pas attaché, je me tenais après ces barres de sécurité-là, puis il accélérait à fond, puis allez, j'avais le grand sourire, puis encore papa, puis encore papa. Et quand j'ai vu Gilles Villeneuve gagner le Grand Prix du Canada en 1978, surtout quand il a pris le drapeau à damier dans ses mains, le petit gars de 10 ans s'est dit, et que j'aimerais ça un jour vivre des sensations comme ça. Et ça a pris 19 ans. Et pour moi, c'était un rêve de courir sur le circuit Gilles Villeneuve. Bon, en Formule 1 ou peu importe la série, cette année-là, ben, j'ai la chance d'être avec l'écurie Players en Formule Atlantique. 70 000 personnes dans les estrades, 40 voitures sur la grille. 39, pardon. Et on fait la pole position, on gagne la course. Et quand on est venu me donner le drapeau à damier, puis que je l'ai pris dans mes mains, ben le petit gars, plutôt je me suis replongé dans ce petit gars qui avait rêvé de gagner au circuit. Je pense que c'est un livre un peu sur l'inspiration, en même temps qui démontre, oui, des défis à relever, mais comme je le dis dans le livre, apprécions les défis qui se présentent à nous, et puis c'est important de les relever. Et d'avoir de l'adversité, ben ça fait partie d'un rêve, en tout cas, surtout en sport automobile. Que ça soit bon, que je sois parti avec 200 $ en poche en Europe, pour certaines personnes, on va voir ça comme étant waouh, ça prend du cran. Mais dans un sens, j'avais tout à gagner. Et souvent, ben on pense des fois qu'on risque de perdre, mais finalement, c'était tout le contraire.
Ce qui est venu en fait, si tu permets, ben, excuse-moi, si tu permets, avant d'aller plus loin, Luc, on va peut-être situer les gens un peu. Le livre s'appelle « Piloter son avenir ». C'est, il faut le rappeler, Bertrand fait des conférences depuis plusieurs années dans différentes institutions, des corporations, des écoles et tout, sous le thème de « Piloter son avenir ». L'idée, en fait, c'est justement, comme il l'a précisé, c'est de mener ses rêves à bien. Ça raconte l'histoire de Bertrand. Là, je parle comme si tu n'étais pas là, Bertrand, là, parce que je le connais un peu, correct. Ton histoire. Ça raconte l'histoire de Bertrand, le petit gars de Sainte-Hélène, qui a décidé à un moment donné de s'investir dans un monde pour lequel il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de contact, mais qui finit par y arriver quand même. C'est une histoire de détermination, c'est une histoire de... Vous allez vous rendre compte que Bertrand Godin a un sale caractère et une tête de cochon.
Ben Marc, tu la connais, ma tête de cochon?
Oui, mais moi, on en parlera une autre fois. Mais okay. Ça pour dire que c'est un livre qui vraiment, même si vous n'êtes pas un passionné de sport automobile, ça n'a aucune espèce d'importance. L'histoire se lit comme un roman. Moi, je l'ai lu. J'étais dans un avion. J'ai décollé en lisant et quand j'ai atterri, j'avais terminé. Donc, c'est quand même une histoire qui se lit comme un roman. Alors, excuse-moi, Luc, c'est juste que je voulais faire une petite mise en contexte pour les gens là, qui ne connaissaient pas exactement de quoi on parlait.
Non, c'est
moi,
correct.
Je vais faire un petit commentaire. C'est que Marc, il doit lire en cinquième vitesse. Il y a quand même 400 pages.
On allait à Los Angeles, c'est 5h30 de route.
Il a peut-être lu en diagonale aussi, on ne sait pas. Mais non, mais c'est ça que j'allais dire. C'est que c'est un livre qui montre un peu que tu sais, faut avoir de l'espoir dans la vie. Il faut pas nécessairement laisser tomber quand on a une embûche. J'ai beaucoup aimé le passage sur ton amour du baseball et où quand tu étais voir une partie des expos, tu t'es dit « moi, je veux jouer au baseball plus tard » puis que finalement, ton coach t'a pris de côté, mon et ton professeur de baseball t'a dit « regarde, Bertrand, le baseball, c'est peut-être pas pour toi » puis mais dans le fin fond, t'as toujours gardé ton amour puis ton rêve de devenir pilote automobile. Tu sais, je lisais le livre et je l'ai pas. Moi, je suis pas comme Marc. Je suis pas dans un avion pendant 5 heures. J'ai pas eu le temps de le finir encore. Mais juste en le commençant, je me disais c'est un livre qu'on devrait faire lire aux enfants pour leur montrer que dans vie, non, c'est pas tout facile, mais si tu persévères puis tu persistes, tu peux réaliser tes rêves. Puis c'est pas vrai que tout le monde va réaliser leur rêve dans vie, ça serait juste trop beau, puis tout le monde serait juste trop heureux puis trop content, ça marche pas de même, ça la planète Terre là, mais ça reste que si tu travailles fort puis tu mets les efforts qu'il faut, tu peux réaliser tes rêves là.
Puis on a même pas l'impression de travailler fort et de faire des sacrifices. Moi je dis aux gens, un peu comme le baseball, bon, oui, j'avais pas de talent là-dedans, mais j'ai continué de jouer au baseball, de m'amuser, et je pense que quand on fait quelque chose, ben faut le faire avant tout parce qu'on aime ça, parce qu'on se lance là-dedans, puis là, ben c'est sûr, pour en faire un métier, ben il y a plein de critères, il y a plein de situations, puis même si aujourd'hui, je vois des jeunes. Je pense au petit Vincent Gérard notamment qui débute, puis Vincent, il y a la flamme dans les yeux, et puis je lui ai dit, même si tu avais 0,001% de chance, prends-les, essaye-les, vis-les, c'est une expérience de vie, puis chaque petit pas qu'on peut faire, chaque rencontre, chaque poignée de main, chaque petit coup de volant qu'on va donner, ben nous emmène un peu plus loin. Puis c'est quand on veut atteindre quelque chose qu'on est heureux. Après ça, oui, on en est fier lorsqu'on a atteint des objectifs. C'est certain, j'aurais voulu piloter en Formule 1. Mais au début, quand j'ai acheté mon kart, à l'âge de 18 ans, ben c'est certain que pour moi, ben déjà... Je partais avec beaucoup de retard au niveau de l'âge, mais je m'en foutais. Pour moi, ben, c'était d'avoir du plaisir là, sur la ligne droite, dans le virage, avec le gros orteil sur l'accélérateur.
Alors, c'est un livre, je le répète, qui s'appelle « Piloter son avenir ». Ça vaut la peine d'être lu. Bertrand, on te remercie d'avoir été avec nous. Évidemment, on va te voir au Salon de l'Auto la semaine prochaine. Je veux juste préciser un détail. Bertrand aime toujours le baseball. D'ailleurs, si vous lisez le livre, vous allez constater pourquoi. Mais il y a quelque chose que peu de gens savent. Bertrand a aussi rencontré Fernand Lapierre, qui est l'ancien organiste des Expos.
Oui,
il lui a enregistré la toune officielle des Expos.
Oui, oui.
Et Bertrand la joue à l'orgue.
Ben, peut-être un jour, je le mettrai sur Facebook.
Ah, ça me fera tellement plaisir. Alors Bertrand, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine au Salon de l'Auto.
Salut!
Merci Bertrand.
Bye bye.
Bye. Alors, nous sommes de retour et Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. On va parler de voitures qu'on a essayées, bon, pendant ou un petit peu avant le temps des fêtes. Toi, tu veux nous parler du Mazda CX-9, qui est le véhicule que tu as eu tout le temps des fêtes.
Ouais, effectivement, un gros véhicule que j'avais déjà essayé et que j'ai essayé pendant 2 semaines et que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce véhicule-là parce que ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il est à la fois un gros véhicule familial et à la fois un véhicule qui est assez passe-partout et assez polyvalent.
Okay.
Bon, on s'en est servi, évidemment. On n'a pas voyagé beaucoup, on n'est pas allé très loin, la famille est aux environs. Donc, on s'en est servi par temps froid. Je peux te dire qu'il démarre bien. Je n'ai pas eu de problème. Sauf que j'ai eu l'occasion, mais pas moi, mais on a eu l'occasion de faire une expérience particulière. J'ai prêté la voiture à mon épouse parce que bon, son employeur participait à une livraison de paniers de Noël.
Okay.
Pour un certain nombre de familles. Okay. Et là, il se retrouvait avec des petits véhicules, il ne savait pas dans quoi les embarquer. Il était 3 collègues à déplacer des choses. Alors, je leur ai prêté le véhicule pour qu'elles aillent faire les livraisons. Mais écoute, elles ont rentré 30 sacs d'épicerie recyclables.
OK, oui, oui.
10 kilos de pommes de terre.
Oui.
Quand même. Elles ont rentré, il y avait des espèces de rôtissoires pour permettre de faire cuire les dindes.
OK. Ouais.
Et 3 passagères.
OK. Commence à faire du stock.
Ça commence à faire du stock dans un véhicule comme celui-là. Stock aussi parce que c'était pas nécessairement la plus belle des journées en matière de température. Il faisait pas très beau. Elles livraient ça souvent dans des petits villages environnants. Donc, c'est pas super simple. Mon épouse est pas la personne la plus brave au volant quand vient le temps de conduire en hiver. Pour elle, c'est les tractions intégrales, c'est l'invention du siècle. Donc, elle a profité de ce véhicule-là et honnêtement, elle en est sortie en disant « Écoute, j'ai vraiment rien à dire, ça a super bien été, on a passé partout et jamais on ne s'est senti en difficulté d'aucune façon.
Okay, » bon.
Alors, je pense que ça, c'est déjà en soi un bon élément.
Mm-hmm.
Moi, j'ai eu l'occasion de conduire aussi le véhicule, évidemment. C'est sûr, c'est un petit 2,5 litres turbo de 227 chevaux. C'est un peu juste quand c'est plein. Bon, quand tu sais, j'ai voyagé, j'avais mon épouse, j'avais mon fils avec sa blonde. Évidemment, ça devenait un peu plus compliqué, mais en même temps, c'est un véhicule qui fait très bien le travail et qui a une qualité de finition qui est impeccable. Évidemment, ouais. J'avais la version signature qui est la version la plus élevée, mm-hmm. qui vaut quand même 50 000 $. Mm-hmm. C'est pas donné, mais c'est quand même honnêtement un véhicule qui se comporte très très bien et qui est amusant à conduire. Amusant étant relatif dans les conditions, là, mais quand même qui est relativement amusant à conduire. Donc, un véhicule, honnêtement, que je n'aurais pas regretté d'avoir tout au long du temps des fêtes et qui a très, très, très bien fait le travail tout le long.
Ouais.
Je te dis, 50 000 $, c'est un peu cher. Il existe quand même des versions à 36 000 $, qui est la version de base. Moi, la mienne avait une boiserie, puis c'est des vrais bois et tout.
Bon, oui, c'est magnifique. C'est quand même... Je l'ai vu au test-fest à la Jacques, puis il est vraiment beau. Là. C'est vraiment une finition impeccable. Ouais, c'est beau.
Il est très, très beau, mais comme je te dis, c'est sûr qu'à 51 000 $, c'est un peu intense, je te dirais. Par contre, c'est un véhicule, écoute, je te l'ai dit, c'est dans la série des gros véhicules de cette taille-là, pour 7 passagers, tu ne trouveras pas vraiment mieux. Parce qu'en fait, il te donne aussi une satisfaction de conduite que tu ne retrouves pas généralement dans ce genre de gros véhicule.
Moi, c'est un peu spécial que Mazda était capable de mettre un peu de leur vroom-vroom, là, tu sais, l'espèce de mentalité de petite voiture sportive, même dans un véhicule de ce grosseur-là. Là. C'est quand même assez dynamique, c'est hyper confortable. Là. Fait que j'ai trouvé ça spécial, là, d'être capable de faire ça, de reproduire ça dans un véhicule de cette taille-là. C'est quand même assez incroyable.
Oui, effectivement, et ils ont très, très bien réussi. Mm-hmm. Je te le confirme.
Oui.
Et toi, tu étais dans quelque chose de plus raisonnable un peu.
Oui, moi j'ai c'est pas pendant le temps des fêtes. Pendant le temps des fêtes, j'avais la Hyundai Elantra GT que je vais vous parler la semaine prochaine. Je vais vous parler présentement de la voiture que j'ai eue la semaine d'avant, la voiture que j'ai utilisée pour aller voir Star Wars avec la gang de chez Nissan Canada. C'était la Hyundai Sonata 2 litres turbo, la 2 litres T-Sport, qui est un véhicule qui est, ma foi, assez incroyable, assez confortable. J'aime à peu près tout de ce véhicule-là. La seule chose, peut-être, je pourrais déplorer, puis je sais pas si tu trouves la même chose que moi, on dirait qu'on est en train de rendre la Sonata un peu trop comme la Fusion côté design. Puis je trouve ça un peu bizarre. Je la regardais de côté, puis je trouvais que ça ressemblait à une Ford Fusion. Puis...
J'avoue que j'ai pas remarqué. Je suis franc, j'ai pas remarqué.
Ouais, la calandre, puis la forme, puis je sais pas, ça fait un peu spécial. Tu sais, la Fusion, c'est vraiment une voiture que quand tu regardes de côté, elle a pas vraiment de courbe. C'est comme vraiment, tu sais, ça descend rapidement. Ça fait un peu spécial comme espèce de forme. Ben la Sonata est en train de reprendre un peu cette forme-là. Puis j'aimais beaucoup le design de surtout de côté de la Sonata de génération précédente, mais j'aime tout le reste un peu plus de celle de présente génération. La calandre est plus belle, l'intérieur est mieux fini, c'est plus confortable, mais pour le reste, c'est juste de côté, je trouve que ça ressemble vraiment beaucoup à une Fusion. Ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose, là, mais je sais, pour moi, c'est pas ma voiture préférée, la Fusion. J'aimais mieux la Sonata que la Fusion, puis on dirait qu'on est en train un peu de mettre les deux modèles un peu trop similaires, mais ça, les voitures s'en vont toutes vers un design un peu similaire d'une compagnie à l'autre, fait qu'à un moment donné, on a un certain nombre de lignes spécifiques, maximum, j'imagine, qu'on peut faire, puis à un moment donné, tout va se ressembler, mais pour le reste, c'est une voiture que j'ai vraiment aimée, puis malheureusement, je l'ai eu dans des conditions vraiment pas idéal, il faisait extrêmement froid. J'ai été pris pour, tu sais, laisser chauffer la voiture souvent, fait que longtemps, puis j'étais arrivé trop de bonheur au cinéma, fait que la voiture a roulé un peu plus parce que ça me tentait pas de geler. Donc, tu sais, j'ai pas fini avec une super bonne consommation d'essence, j'ai fini à peu près 10 litres au 100. La voiture est capable de faire beaucoup mieux que ça. C'est vraiment les conditions hivernales qui ont fait que j'ai eu une consommation si haute que ça. Mais vous pouvez probablement en faire dans le bas 9, haut 8, peut-être même bas 9 là, avec cette voiture-là, là, sans aucun problème. Il y a plusieurs modèles disponibles. Moi, ce que j'avais, c'est vraiment la modèle le plus haut de gamme, la 2.0T Sport, qui est une voiture à 36 999 $. Bon, on va se le dire, 37 000.
Ouais, c'est ça. Mais c'est... En fait, c'est le très compétitif avec ce qui se fait ailleurs.
Oui, c'est pas plus cher. C'est pas. Puis on y va de base, par exemple, avec 24 799, mais on n'a pas le même moteur. Le moteur 4 cylindres, 2.4 litres de 185 chevaux. Moi, j'avais le moteur 2 litres turbo c'est quoi, 245 chevaux, 260 livres pieds de coupe. Ça se déplace quand même bien. Boîte automatique à 8 rapports. J'ai pas trouvé que la boîte de vitesse faisait un excellent travail. Là, t'as pas l'impression que, tu sais, ça change de vitesse à tout bout de champ. C'est mieux que ce que c'était dans les premières transmissions, genre chez Chrysler, la 9 vitesses où c'était partout tout le temps, puis c'était vraiment ouais. pas agréable. La 8 ou la 9? C'est 9, hein, chez Chrysler.
La 9.
Ouais, c'est ça. C'était vraiment pas agréable. Ça, c'est aucun problème. C'était vraiment super confortable. Siège chauffant, ventilé, siège arrière chauffant. Mon fils a malheureusement pas vraiment embarqué souvent dans cette voiture-là. Il a pas eu l'occasion d'apprécier les sièges arrière chauffant. Lui qui disait la semaine d'avant, c'est dommage, la voiture a pas de siège arrière chauffant. Ben non. Mais ouais, c'est ça. Celle-là n'avait, mais c'est ça. Ouais, oui, il est rendu gâté. Mais non, c'est une bonne voiture, c'est une belle voiture, c'est agréable à conduire. Pour une berline de cette taille-là, t'as pas nécessairement l'impression que tu conduis une grosse voiture. T'as l'impression que tu conduis une berline un peu sportive. Probablement que c'est dû à la motorisation. Le moteur est quand même assez prime, assez nerveux, avec un bon couple. Là. Fait qu'on a on a l'impression qu'on conduit quelque chose qui est amusant. Là. Comme je disais, l'intérieur est bien fini. Le coffre est très grand. Puis c'est pas nécessairement surprenant pour une berline de cette taille-là. Mais je suis toujours agréablement surpris quand j'ouvre le coffre. Puis tu vois que tu peux mettre beaucoup de choses si tu veux. Tu sais, c'est pas t'es pas pris. Là. Tu vas aller faire une grosse épicerie pour le temps des fêtes. Là, t'as de la place en masse. C'est quand même bien. Place arrière assez spacieuse, place avant spacieuse aussi. Toit panoramique, vraiment magnifique. Là. Quoique quand c'est gelé à grandeur, c'est comme moins, c'est ce que je te moins le fun. Dire.
À moins 42, tu t'en rends moins compte un peu. Là,
c'est moins impressionnant, mais l'été, c'est bien, bien agréable. Fait que belle voiture dans une gamme de prix assez large, là, comme je disais, ça part d'à peu près 25 000 jusqu'à 35 000 $. Il y a quelque chose là-dedans qui va promettre à votre goût. Dans la version que j'avais, il y avait des jantes de 18 pouces, des belles grosses jantes avec des pneus, avec des beaux pneus. Il y a des jantes de 17 pouces, puis je pense de base, c'est des jantes de 16 pouces, là, avec la version de base. La transmission change aussi. La version de base, une transmission à 6 rapports. Puis la version de comme j'avais la turbo, comme je disais, c'était une transmission à 8 rapports. Très bien, tu sais, t'as même la caméra de recul sur la version de base, puis t'as les sièges avant chauffants. Fait que c'est quand même une voiture qui, de base, vient bien équipée. Là.
Ça, la caméra de recul, ça va devenir obligatoire. C'est l'année prochaine aux États-Unis?
Ouais, c'est ça. Fait que ça va venir ici aussi parce que ils vont juste la mettre dans toutes les voitures. Là. Ça sera plus un problème. Faut pas se fier là-dessus, mais j'avoue que de temps en temps, je trouve ça agréable, là. Surtout si tu recules dans un stationnement, tu sais, t'es à l'épicerie ou t'es au cinéma, puis tu veux reculer, puis sortir de ton espace, puis t'es pris de chaque côté, puis t'as un gros camion, fait que c'est le fun d'avoir des détecteurs de mouvement alentour qui va t'avertir si c'est une voiture qui s'en vient, ou une caméra de recul avec un angle assez large. Ça te permet peut-être d'éviter certains petits désagréments.
Effectivement. Ouais, effectivement.
Mais très bien, j'ai bien aimé. Fait que c'est tout pour nos essais. Marc, tu veux nous parler un petit peu du CES?
Ben, parler de nouvelles, en fait, d'actualité, parce qu'on ne peut pas passer une semaine sans actualité. Il y a des nouvelles importantes cette semaine. Mm-hmm. Entre autres, Ford qui a enfin dévoilé la puissance du Ford F-150 diesel.
Oui.
250 chevaux, 440 livres pieds de couple. Ça va déménager. Ça s'en vient au mois d'avril. On le sait, c'est la camionnette la plus vendue au Canada, c'est depuis 52 ans, semble-t-il.
Selon ce qu'ils disent dans la publicité, oui.
Oui, c'est ça. Et ça a l'air que c'est vrai. Donc, c'est une voiture, c'est un véhicule, évidemment, qui est super important. Alors ça, c'était une des nouvelles importantes. Mais, comme tu l'as mentionné, c'est le CES. Le CES, c'est presque en train de devenir, en fait, le plus gros salon de l'auto.
Moi, ouais, pour la technologie, ces choses-là, il y a beaucoup de compagnies qui présentent des voitures là maintenant. Là.
Énormément, mais pas juste des voitures, des technologies bizarres. Entre autres, Nissan qui arrive avec une voiture connectée au cerveau de son conducteur.
Ce qui est dangereux en fait, pour certains.
Oui, c'est ça. Comme je disais, c'est Donald Trump qui conduit, il va partir de reculons. Ouais. Mais l'idée, en fait, c'est qu'ils vont détecter les ondes cérébrales du cerveau et ils estiment, entre autres, que ils peuvent planifier davantage. Tu sais, quand tu décides de tourner à droite, ton cerveau y pense d'avance et la voiture pourrait réagir de 2 à 5 dixièmes plus vite que toi.
OK. Donc, ça autant que tu ne penses pas à « je vais prendre le champ, je vais prendre le champ, je vais prendre le champ », puis tu prends le champ.
Oui, c'est effectivement, mais j'ose espérer que c'est assez intelligent pour ne pas faire ça.
Oui, ça serait le fun.
Dans les autres nouveautés, on va parler de la Snap, puis il y a aussi Toyota qui a quelque chose du même genre. Ce que c'est, en fait, c'est que c'est une espèce de plateforme mobile, c'est un véhicule plateforme autonome qui, sur lequel on peut littéralement snapper différents types de carrosseries.
Okay.
Donc, on peut changer le style. Ça peut être consacré au transport de marchandises, ça peut être consacré au transport de personnes. Ça s'appelle le E-Palette dans le cas de Toyota. Ça s'appelle la Snap dans le cas de Rinspeed, qui est un designer européen qui nous avait fourni des voitures complètement folles dans le passé. Alors, ça aussi, ça fait partie des nouveautés. Dans les affaires plus, je dirais, plus normales, Hyundai qui a présenté sa deuxième génération de voitures à piles à combustible, la fameuse voiture à hydrogène.
Okay.
Dans ce cas-ci, elle s'appelle la Nexo. Elle est vraiment jolie. C'est un petit véhicule qui ressemble un peu, je te dirais, peut-être au Niro, quelque chose comme ça.
Okay.
Mais il a sa propre plateforme et c'est un véhicule à hydrogène, donc un véhicule qui devrait voir le jour, mais qui va être distribué en fait aux États-Unis et dans différents pays, éventuellement chez nous, si un jour on développe la structure.
Ouais, ce qui est pas fait, non, mais on sait jamais.
C'est ça. Parlant du Niro qui a présenté la version 100% électrique aussi du Niro lors du CES, c'est un prototype cependant, on n'a donc pas toutes les coordonnées, toutes les capacités, mais c'est quand même intéressant de voir ce qui est offert parce que la ligne est vraiment très, très jolie. C'est vraiment un beau, beau véhicule et honnêtement, c'est super le fun.
Ouais.
La firme Valeo a décidé de... Tu sais, tu connais le chauffage bizone ou multizone dans les différents véhicules pour rendre le confort agréable pour tout le monde. Ben, imagine-toi que ils ont déterminé maintenant un chauffage adapté à chaque passager.
Okay.
OK. L'idée, en fait, c'est qu'on va utiliser la totalité du siège, de l'appui-bras, tout ça, pour le chauffer ou pour les ventiler. On va aussi utiliser des brumisateurs. Donc, tu sais, quand on pète des petites gouttelettes là, pour rafraîchir les gens, on va jouer avec des éclairages. Quand il fait froid, on va éclairer des couleurs chaudes et inversement. Et on peut jouer avec les températures. Et tout ça en se basant sur des caméras infrarouges qui vont te permettre de te reconnaître et de savoir exactement quelle est la température idéale pour toi.
Ouais, parce qu'avec des caméras infrarouges, on peut détecter la chaleur de ton corps présentement puis dire t'as froid, t'as chaud, puis adapter. Là.
Ouais. Exactement. Ouais. C'est fini les chicanes avec ta femme pour savoir qui gère le chauffage.
Il n'y a pas de chicane avec ma femme pour savoir qui gère le chauffage. C'est elle qui gère le chauffage.
C'est elle, c'est ça, exactement. Aucun, c'est comme moi, ça.
Aucun problème là, il n'y a pas de chicane.
C'est ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que ma femme... J'ai mes propres opinions, puis c'est ça que ma femme me dit.
C'est ça.
Bref.
C'est correct comme ça.
Exactement. Hitachi et Clarion qui se sont associés pour développer un système qui s'appelle Park by Memory. En fait, ce que c'est un système de stationnement autonome qui va utiliser la mémoire des caméras et des GPS de ton véhicule et qui va, en prenant des photos et tout ça, garder ces données-là en mémoire et savoir comment se stationner la prochaine fois.
Okay.
Donc, par exemple, tu arrives dans ton garage, on sait à quel point tu te stationnes dans ton garage, ben le véhicule va le reconnaître et va se stationner de lui-même grâce aux données préenregistré en mémoire.
OK, c'est intéressant. Quand t'as dit Clarion, j'étais pas sûr parce que ça me rappelle ma jeunesse. Quand t'avais pas de budget pour t'acheter un radio pour ton auto, tu t'achetais un Clarion.
Mais... Ouais, non, mais ils ont quand même fait des produits qui étaient intéressants.
Okay.
Parlant de choses comme ça, ben, les commandes vocales, de plus en plus, ça s'améliore évidemment. On aura donc Alexa bientôt dans les voitures Toyota. Alexa, on le sait, là, c'est la version Amazon du Google Home là, qui t'a en fait jaser dans le temps des fêtes.
Moi, ouais, j'espère que ça va déniaiser Amazon, par exemple, parce qu'Amazon offre pas Alexa en français présentement.
Non, je le sais. Moi, j'ai un Alexa à la maison. Je l'ai depuis un an. J'avais été obligé de tricher un peu pour aller utiliser la version américaine et le positionner comme si je demeurais le plus proche possible de la frontière canado-américaine. Ils l'ont offert depuis le mois de novembre, mais pas en français, effectivement.
Ben ça, j'ai posé même la question sur le site d'Amazon parce que ça m'intéressait. Il était comme, je pense, 49$ pendant le temps des fêtes. Je me disais, ça serait le fun parce que j'ai un abonnement à Amazon Prime, fait que ça te permet de Amazon de musique, puis la télé, puis tout ça. Puis j'ai posé la question sur le site d'Amazon, est-ce que Amazon planifie de le faire en français bientôt? Puis ta question est sur le site d'Amazon pendant un certain temps, puis après ça, Amazon t'envoie un courriel pour te dire, si t'as des réponses, voici les réponses que t'as eues. Puis, ou sinon, t'envoie un courriel après un bout de temps en disant, personne n'a répondu à ta question, c'est parce que la question s'adresse à vous autres. Mais ils n'ont jamais répondu. Fait qu'à date, Alexa ne se fait pas. Ne se fait pas
mais en je français. Pense qu'il se fait en français en France.
Peut-être, mais.
Mais faudrait vérifier. En ouais. tout cas, anyway.
Okay. On verra peut-être.
Tout ça
un
pour
jour.
Dire qu'il va éventuellement arriver chez Toyota, tout comme la technologie 5G. Okay. 5G, on le sait, actuellement, on est 4G avec notre téléphone. Mm-hmm. Donc, 5G. Et c'est essentiellement une compagnie chinoise qui s'appelle Byton, qui veut développer ça pour son prochain véhicule. Un véhicule qui est un utilitaire sport, qui ont présenté là-bas, qui est un concept utilitaire sport, qui veut concurrencer le Tesla Model X. Donc, on fait vraiment là, dans l'électrique 200 000 $ et tout et tout. La particularité, en fait, c'est qu'on a plus de trucs connectés. Entre autres, il y a une caméra dans les piliers qui reconnaît ta face, donc ça débarque comme tu veux. Et la beauté de la chose, c'est qu'il y a un écran qui fait office d'un tableau de bord, 49 pouces
ouh,
comme tableau de bord.
Ça commence à être une télé de salon. Ça doit être beau regarder un film là-dessus dans ton auto.
Exactement, en conduisant sur du trafic. Bref, voilà. Alors, comme tu vois, il y a beaucoup de choses. Et je te rappelle que la semaine prochaine, oui, il y a le salon de l'auto de Montréal, mais il y a aussi le salon de Détroit où je serai. Et là, on aura vraiment des modèles un peu plus ordinaires, je te dirais, dont on pourra parler aussi la semaine prochaine.
Super, on en reparlera. Je sais que c'est ça, toi, tu vas être là. Pas moi, par exemple. Détroit, je suis allé une fois, puis je ne suis jamais retourné. Pas que j'aime pas, c'est juste que j'ai pas nécessairement le temps ni les moyens d'y aller, mais c'est un salon qui est toujours intéressant, puis c'est un gros salon. C'est le fun à voir. Et puis donc,
ouais, il est moins gros qu'il l'était, par exemple.
Oui, oui, ça rapetisse un peu, mais ça reste quand même un salon intéressant. Donc, on parlera de Détroit et de Montréal la semaine prochaine. Donc, Marc, si les gens veulent te rejoindre en attendant, comment font-ils cela?
Ben, sur mon blog, marcbouchard.ca. Sinon, évidemment, ma page Facebook, Marc Bouchard, je pense que c'est l'endroit où vous allez voir le plus de choses. Ça ou mon compte Instagram, Bouchard_Marc, qui sont en fait les endroits où, justement, pour le Salon de Détroit, pour le Salon de Montréal, vous risquez de voir le plus d'éléments. Sinon, il y a toujours Twitter, Marc_Bouchard. Mais j'avoue y aller beaucoup moins qu'auparavant sur Twitter, évidemment. Et il y a aussi notre adresse courriel qu'on vous promet d'aller voir plus souvent. C'est info@saroulradio.com que l'on reçoit Luc et moi.
Ouais, ben info@saroulradio.com, c'est pas un problème parce que je reçois les courriels dans ma boîte régulière que je me sers pour faire à peu près tout le temps. C'est l'autre boîte qui était comme un peu négligée, mais je promets d'aller faire un tour de temps en temps. Fait que si jamais vous écrivez dans cette adresse-là, quand même, je vais y aller. Mais comme Marc dit, si vous voulez nous écrire, puis on adore recevoir des courriels puis des questions comme on a fait au début de l'émission, ben info@saroulradio.com. Comme Marc a dit, écrivez-nous là, puis on va vous répondre. Pour moi, sur Twitter, c'est @Ascalazormo. Si vous voulez nous écouter, ben à travers iTunes, à travers Google Play, on est disponible. Puis on est aussi sur 3 radios web, Radio H2O, sportradio.ca et Radio Média Plus. Donc, c'est pas mal ça pour cette semaine, Marc. Merci beaucoup.
Attends. Oui. Oui, je veux juste préciser qu'au cours des prochaines semaines, dans 2 semaines, de façon plus précise, on va lancer un concours. C'est important d'en parler tout de suite, comme ça les gens vont pouvoir nous écouter dans 2 semaines. On va lancer un concours en collaboration avec Turo. Turo, c'est, on va vous en reparler. On aura d'ailleurs quelqu'un de Turo qui va venir nous en parler. Turo, c'est un système qui vous permet de mettre votre propre voiture en location, si on veut, à la journée. Donc, on aura l'occasion d'en parler plus à fond avec la personne. Sauf que on va faire tirer 2 journées des cours de conduite hivernale qui vont être donnés par Marie-Laurence Paquin à Saner. Alors, on vous invite à être à l'écoute. Pas la semaine prochaine parce qu'on est coincé dans les salons, mais la semaine suivante, on aura quelqu'un de Turo avec nous et on vous expliquera toutes les modalités de ce concours.
Ouais, c'est quelque chose qui est très à la mode, qui est là depuis quelques années, puis il y a quelques compétiteurs en Europe pour ça, louer sa propre voiture. Là, au Canada puis en Amérique, c'est un peu moins populaire présentement, mais je suis sûr que ça va prendre de l'ampleur. Donc, j'ai hâte d'entendre parler les gens de Turo qui vont venir nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Super!
Effectivement! Et comme je te dis, un petit concours, c'est toujours le fun.
Oui.
Conduite hivernale, on le sait, vous êtes tous bons pour conduire en hiver, mais ça se peut que vous alliez chercher des trucs quand même.
Oui, c'est ça. On aime ça donner des choses aux gens quand on est capable. Donc, écoutez-nous toutes les semaines, mais surtout dans 2 semaines, puis vous participez au concours. S'il vous plaît, ça serait bien, bien apprécié. Donc, Marc, merci encore une fois. Et merci d'avoir fait cette première émission de l'année avec moi. Et puis, soyez prudents sur les routes. Hein. Il annonce peut-être du verglas et des températures pas nécessairement très, très agréables dans les prochains jours. Soyez prudents. Et puis, on se reparle la semaine prochaine. Bye tout le monde.
Bye bye.